Nuages, pluie et vent pour le dernier week-end de l'année. Les conditions météo vont se dégrader dans les heures qui viennent. Explication dès le début de ce journal. Un incendie hier soir dans le secteur de Nouville. C'est un conteneur qui est parti en fumée. L'intervention des sapeurs-pompiers de Nouméa aura duré plus d'une heure. 102 classes de CM2 ont participé lors de l'année scolaire au programme Wati porté par Symbiose, l'association qui tire un bilan positif de ce programme d'apprentissage des éco-gestes. Une enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire après une attaque au couteau dans le métro parisien. 3 femmes poignardées sur la ligne 3. L'auteur des faits a été interpellé. Beaucoup de choses peuvent être décidées avant le nouvel an, estime le président ukrainien au sujet des pourparlers de paix avec la Russie. Volodymyr Zelensky rencontrera Donald Trump ce dimanche en Floride. Et puis presque 24 heures de course sur la Sydney Hobart. Au dernier pointage, Master Lecomanche est en tête de la flotte. À la fin de ce journal, nous prendrons des nouvelles des 3 bateaux calédoniens qui sont en course. Bonjour, excellent week-end et soyez les bienvenus dans ce journal. Après une semaine déjà marquée par la pluie et le mauvais temps, la grisaille risque de persister. Les 33 communes du territoire sont placées en vigilance jaune, forte pluie et orage et ou vent fort. On fait le point avec vous, Charlotte Coulson.
Un minimum dépressionnaire de 1005 hectopascales est situé à 500 km au sud-ouest de la Nouvelle-Calédonie. Il ne nous touchera pas directement, mais va tout de même entraîner une dégradation du temps et un renforcement du vent cette nuit. Myriam Chouaïrabi, des prévisionnistes à Météo France Nouvelle-Calédonie.
En fait, on a le mauvais temps qui va vraiment arriver en cours de nuit prochaine. Donc là, par contre, on va avoir le temps couvert qui va se généraliser à tout le pays et qui va donner lieu à beaucoup de précipitations. Ces pluies pourront être localement fortes et accompagnées de coups de tonnerre. On a également un renforcement du vent prévu. Le vent va s'orienter au nord-ouest. Il devrait souffler entre 20 et 25 nœuds et des rafales, notamment sous les averses, sont attendues jusqu'à 35 nœuds, c'est-à-dire 65 km/h, ponctuellement jusqu'à 75 km/h.
Et c'est la côte ouest qui sera majoritairement impactée, même si l'ensemble des communes devront garder une certaine vigilance.
Ça va être d'abord la côte ouest qui devrait connaître la dégradation dès la nuit prochaine. Et en fait, ce mauvais temps et ce vent fort avec les rafales associées sous les orages vont concerner l'ensemble du territoire. Pour l'instant, toutes les communes ne sont pas encore en vigilance jaune pour le vent. Mais par contre, on risque probablement de revoir le niveau de vigilance pour le vent lors des prochaines vigilances. Après, au niveau des pluies, on a déjà eu pas mal qui sont tombées déjà hier. Et en fonction des cumuls de pluie qu'on pourra relever au passage des averses les plus fortes, on pourra revoir le niveau de vigilance. Ça pourra être réévalué.
Et concernant la soirée de la Saint-Sylvestre, pour l'instant, les prévisions sont plutôt optimistes. Le temps devrait s'améliorer, mais nous ferons un point plus précis plus tard.
Et bon week-end quand même. Au chapitre des faits divers, cet incendie survenu hier soir dans le secteur de Nouville. Un feu qui a touché un conteneur de la style la Société de Transport des Îles Michael Juneski.
Le feu s'est déclaré aux environs de 21h. A priori, un conteneur aménagé en Algeco qui a été la proie des flammes. Le sinistre s'est propagé à quelques matériaux autour, des pneus usés provoquant une forte fumée, des palettes. Les sapeurs-pompiers de Nouméa sont rapidement intervenus sur place et ont pu maîtriser les flammes aux environs de 21h30. 3 véhicules et 10 soldats du feu ont été mobilisés sur cette intervention. Il semblerait que le conteneur en question était voué à la destruction. Une enquête a tout de même été ouverte avec la police nationale sur place aujourd'hui pour procéder aux premières constatations.
Après les fêtes de Noël, c'est un programme festif light qui attend les Calédoniens pour ce congé de fin de semaine à Nouméa. La féerie continue jusqu'au 12 janvier. Les illuminations de la fête de la lumière sont à découvrir chaque soir de 19h à 23h. Plusieurs marchés sont également organisés. Notez que demain à Dimbéa, ce sera un marché de fruits et de légumes au parc Fayard entre 6h et midi. Et puis au Mont d'Or, un grand marché broussard à Boulari. Animations et produits locaux seront à retrouver sur place de 6h à midi également. Alors que les élèves profitent pleinement de leurs vacances scolaires, pensent-ils à reproduire les éco-gestes qu'ils ont appris à l'école cette année? L'association Symbiose a porté le projet Wati sur le territoire. Il vise, Charlotte Coulson, à sensibiliser les jeunes à la transition écologique et aux économies d'énergie.
Le réfrigérateur qui reste ouvert, la lumière allumée alors qu'il n'y a personne dans la pièce, l'eau du robinet qui coule et qui coule pendant le brossage de dents. Les parents qui nous écoutent reconnaîtront sûrement les mauvaises habitudes de leurs enfants, voire de certains adultes qui ne sont pas assez économes. Eh bien, ces manies ont changé pour 2100 élèves du territoire qui ont participé cette année au programme Wati, porté par l'association Symbiose. L'objectif, sensibiliser les jeunes de CM2 aux économies d'énergie à travers des ateliers menés par les membres de Symbiose, dont fait partie Vanina Malizan.
Au sein de cette animation qui dure une heure à une heure et demie, on vient voir plusieurs thématiques. Donc, qu'est-ce que l'énergie, pourquoi on en a besoin. On parle de la fabrication d'électricité, donc tout ça avec des exemples locaux, donc calédoniens. On parle des émissions de gaz à effet de serre, donc le CO2. Quelles sont les conséquences de ces émissions. Donc, on en vient à parler aussi du réchauffement climatique. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter ce réchauffement climatique. Donc là, on vient parler d'éco-gestes, donc c'est ce qui touche plus les enfants. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place à la maison ou à l'école pour limiter justement ce réchauffement climatique. Donc tout simplement éteindre la lumière quand je sors d'une pièce ou de sa chambre, débrancher nos appareils, réfléchir avant d'ouvrir la porte du frigo. Enfin voilà, limiter ces gaspillages d'énergie.
Et cette année, les membres de l'association Symbiose ont dû innover pour organiser le suivi des jeunes à distance, faute de moyens. En plus des séances en classe, une vidéo a donc été diffusée dans les 102 classes de CM2. Une vidéo réalisée par les élèves à tout juste 11 ans. Ellie a pris la pause et a expliqué avec sa camarade ce qu'est l'acidification des océans.
Ils m'ont parlé de l'électricité, comment on fabrique ça. Ils ont parlé des usines qui rejettent le CO2. Après, on a parlé des gestes qui pouvaient réduire le CO2. Et puis après, on nous a proposé de faire une vidéo. Donc j'ai levé la main, j'ai été retenue. Ça portait sur l'acidification de l'océan. C'est quand l'océan qui est neutre, avec le CO2 qui rentre dedans, elle devient plus acide. Et donc ça pose un problème pour le plancton et tous les petits crustacés. Oui, j'ai bien aimé et j'ai appris plein de choses en fait.
Et sachez également qu'un concours Wati a été organisé cette année sur le territoire. Les productions artistiques des lauréats sont à découvrir sur le site internet de l'association Symbiose.
Il est midi et pratiquement 8 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Mercredi 31 décembre, c'est le réveillon du Nouvel An. Pensez à réserver votre table au restaurant Les Trois Brasseurs au 24 15 16. Retrouvez les suggestions spéciales Saint-Sylvestre sur la page Facebook Les Trois Brasseurs.
Prêt pour un Noël complètement waouh ! Cette année, votre Auchan Auteuil réunit tous les ingrédients pour un Noël réussi. Des prix promo canon, une grande sélection de cadeaux, de la déco féerique, de l'épicerie gourmande et un espace boucherie traditionnel qui se coupe en quatre pour vous faire plaisir. Il n'y a plus qu'à passer commande, rendez-vous vite dans votre Auchan Auteuil.
Jusqu'au vendredi 9 janvier, gagnez un séjour à l'hôtel de Poé ainsi qu'un vol au-dessus du plus beau lagon du monde avec Cap ULM. Vous séjournez 6 nuits en bungalow tout confort, cuisine équipée, terrasse et jardin privatif offerts par l'hôtel de Poé ainsi que 2 vols offerts par Cap ULM. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Toute l'année, l'hôtel de Poé vous accueille dans une ambiance conviviale et familiale et Cap ULM vous fait survoler le lagon de Poé et le cœur de Vaud. Toutes les actus sur le FB de l'hôtel. Tirage au sort vendredi 9 janvier à 14h. Chance au 40-20, 371 francs par SMS. Et sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Et la suite de votre journal avec vous, Lionel Sabot.
L'actualité en métropole avec une attaque au couteau dans le métro parisien. 3 femmes prises pour cible sur la ligne 3 au cœur de la capitale ce matin pour nous. Selon les premiers éléments de l'enquête, un individu porteur d'une arme blanche s'en est pris à plusieurs passagers. Il a d'abord blessé successivement 2 femmes au dos et à la jambe dans les stations République et Arts et Métiers. Puis il a continué son chemin en direction de la station Opéra, quelques arrêts plus loin. C'est là qu'une demi-heure après son premier passage à l'acte, il a frappé de nouveau et blessé légèrement une troisième femme. L'homme a pris la fuite avant d'être interpellé environ 2 heures après les faits. Antoine Bienveau pour Europe 1.
À son domicile à Sarcelles, dans le Val d'Oise, en Seine-Saint-Denis. Les enquêteurs ont réussi à le retrouver grâce d'une part aux caméras de surveillance du métro, mais aussi via la géolocalisation de son téléphone portable. Âgé d'une vingtaine d'années, le suspect est connu pour être atteint de troubles psychiatriques, ce qui, selon plusieurs sources policières, écarte pour l'heure l'hypothèse d'un acte terroriste. Une enquête a de toute façon été ouverte et confiée à la Sûreté régionale des transports pour faire la lumière sur les circonstances de son passage à l'acte.
Antoine, caveau du service police-justice d'Europe 1. Après cette attaque, la sécurité a été renforcée dans le métro parisien. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes, salue la réactivité des enquêteurs pour remonter la trace de l'assaillant. En bref, un jeune tué par balle dans le quartier des Aubiers, dans le nord de Bordeaux. Confirmation du parquet il y a quelques heures. Trois suspects âgés de 19 à 24 ans ont été interpellés. Tous sont déjà bien connus des services de police. Le maire de Bordeaux assure que les premières informations laissent penser qu'il s'agirait d'un règlement de compte lié au narcotrafic. Un guide de haute montagne tué dans une avalanche dans la station de ski de la Plagne en Savoie. La victime accompagnait un groupe de 6 skieurs dans un secteur hors piste. Une deuxième victime après l'explosion survenue dans une usine chimique à Saint-Fond près de Lyon, c'était lundi dernier. Un homme de 55 ans, gravement brûlé, est décédé cette nuit pour nous. Il était pris en charge à l'hôpital depuis le drame. Un quadragénaire avait déjà succombé à ses blessures mardi. Deux autres personnes sont toujours dans un état grave à l'hôpital. Il ne reste plus qu'une poignée d'agriculteurs mobilisés dans le sud-ouest de la France, principalement sur le point de blocage dit historique, au sud de Toulouse. Les agriculteurs qui ont passé Noël sur l'autoroute promettent de revenir encore plus fort au mois de janvier. Guillaume Dessler a suivi pour Europe 1 le départ très ordonné des derniers agriculteurs installés tout près de Bordeaux.
Les pelleteuses de sortie déblayent les palettes et autres déchets incinérés sur le terre-plein central de l'autoroute. À côté, les agriculteurs encore présents ont profité d'un dernier repas ensemble avant de ranger et de nettoyer la chaussée.
Il n'y a rien de plus pour l'instant.
Élodie repart mitigée de ces 12 jours de mobilisation.
Il faut à un moment donné rentrer sur nos fermes aussi, s'occuper du bétail et un peu reprendre les choses en main sur la ferme. Content de rentrer et en même temps triste de ne pas avoir abouti complètement à ce qu'on voulait.
D'autres, comme Enola, évoquent le besoin de couper.
Surtout revoir les animaux, tout ça, parce que bon, nous on est éleveurs, donc bon, on tournait à tour de rôle, on échangeait, mais ça va faire du bien de rentrer, revoir la famille, revoir tout le monde et après repartir.
Faire face aux non-réponses aux revendications des éleveurs, la coordination rurale de Gironde a décidé de faire une pause. Bienvenue pour l'un des coprésidents, Vincent Collineau.
C'est contraint, en fait, qu'on est obligé de lever le barrage par manque de main-d'œuvre sur les exploitations. Continuer à faire des négociations où personne nous entend, nous écoute pendant encore 10 jours de plus. Il faut qu'on change de stratégie.
Une réunion entre dirigeants de la coordination rurale dans le sud-ouest est prévue la semaine prochaine afin d'organiser les actions début janvier. À Cestas, Guillaume Dreschler, Europe 1.
Le classement des personnalités préférées des Français a été dévoilé. Le chanteur Jean-Jacques Goldman reste à la première place. Deux personnalités politiques seulement dans le top 50. Les deux figures du Rassemblement National, Jordan Bardella qui est 12e et Marine Le Pen 23e. Emmanuel Macron est très loin derrière. Le président de la République qui voit par ailleurs, sa cote de confiance atteindre son plus bas niveau historique en décembre, 25% selon le baromètre mensuel Harris Interactive, symbole de la défiance à l'égard du président de la République. 62% des Français ne regarderont pas les vœux du 31 décembre du chef de l'État. Venons en actualité à l'étranger après l'annonce cette semaine d'une version largement remaniée du plan de paix américain pour l'Ukraine. Les modalités d'un futur cessez-le-feu seront discutées lors d'une rencontre au sommet qui devrait se dérouler ce week-end. Volodymyr Zelensky doit s'entretenir avec Donald Trump ce dimanche en Floride, même si l'on attend toujours une confirmation officielle de Washington. Rémi Almavi pour Europe 1.
Au menu des discussions, le plan de paix en 20 points, héritier du projet en 28 points, proposé par Donald Trump en novembre, que les Ukrainiens et les Européens ont depuis un peu retoqué. Zelensky l'a assuré, ce nouveau plan est prêt à 90%. Reste à discuter des garanties de sécurité que les États-Unis doivent proposer à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu effectif avec la Russie. Kiev souhaite également parler des territoires annexés par Moscou. La Russie veut récupérer toute la région du Donbass, qu'elle contrôle déjà en majorité, une condition que rejettent catégoriquement les Ukrainiens. Enfin, Zelensky a ajouté que les contours d'un accord économique seraient aussi discutés, précisant qu'il n'était pas en mesure de confirmer si quelque chose serait finalisé d'ici la fin du week-end.
Rémi Malville, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. J'ajoute que la nouvelle version du plan de paix amendé par l'Ukraine ne semble pas convenir à Moscou. Le chef de la diplomatie russe accuse Kiev et ses alliés européens de vouloir, et je cite, « torpiller les négociations ». Les autorités nigériennes s'attendent à une nouvelle frappe américaine contre des groupes djihadistes, quelques heures seulement après les premiers bombardements menés le jour de Noël contre des cibles terroristes dans le nord-ouest du Nigeria. Aucun bilan précis n'a été communiqué. Les États-Unis passent de la parole aux actes dans leur combat pour protéger les chrétiens persécutés dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Une intervention américaine avec l'aval des autorités nigériennes. Mathias Lang pour Europe 1.
C'est ce que laisse entendre le ministre des Affaires étrangères nigérian. Il précise avoir eu au téléphone à deux reprises le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, avant les frappes. Selon cette même source, le président du Nigeria a donné son feu vert. Côté américain, un responsable du Pentagone parle, je cite, de frappes approuvées par le gouvernement nigérian, sans préciser pour autant si les forces armées locales ont été impliquées. Concrètement, ces frappes ont eu lieu dans l'état de Sokoto, au nord-ouest du pays. Dans une courte vidéo publiée sur X par le département de la guerre américain, on distingue le lancement d'un missile depuis le pont d'un navire battant pavillon des États-Unis. Pas de précision officielle sur le nombre de frappes réalisées. Le New York Times croit savoir qu'une douzaine de missiles de croisière Tomahawk ont été tirés par les Américains. Bilan selon Washington, plusieurs terroristes tués. Par ailleurs, ce vendredi, le Nigeria laisse entendre que d'autres frappes contre les groupes djihadistes sont à prévoir.
Il est midi et 16 minutes. On va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, nous parlons sport.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
Info week-end de la suite avec l'actualité sportive.
Et ce qui fait la une de l'actualité sportive, c'est la 80e édition de la Sydney Hobart, l'épreuve de voile de renommée mondiale qui a débuté il y a un tout petit peu moins de 24 heures. Les Super Maxi continuent d'afficher leur suprématie en tête de la course. La première nuit a été marquée par plusieurs abandons. Les détails avec notre correspondant à Sydney, Jean-Pierre Zajac.
Le plus notable de ces abandons a été celui de Wild Thing, le Super Maxi barré par son propriétaire, Grant Warrington, qui en était cette année à sa 30e participation à la Hobart. Des problèmes de gréement seraient à l'origine de son retrait. En tête de course, Comanche, après le commandement des opérations en cours de nuit, et possédait ce matin 5000 nautiques d'avance sur l'O'Connect. Scallywag était pointé à 10 000 nautiques de Comanche, devant le 89 pieds américain Lucky, 3 000 nautiques plus en retrait. Barré par Mark Richards, Palm Beach se trouvait quant à lui en 5e place, à 12 000 nautiques de l'actuel leader en temps réel. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et nous suivons particulièrement, évidemment, les équipages calédoniens qui sont engagés dans les autres catégories. Ils sont trois, Michael Juneski.
Exactement, déjà plus de 23 heures en mer, vous le disiez, pour les trois navires aux couleurs de la Calédonie qui sillonnent l'Australie en mettant le cap sur le sud. Dans la catégorie duo, tout d'abord, Yann Rigal et Michel Quintin sont très bien lancés sur BNC MyNet Léon. Ils sont au milieu de la flotte, mais surtout leaders de leur division en double et en IRC5, toujours au large donc de la côte est de l'Australie. Yann Rigal qui a confié avoir passé une première nuit difficile, mais le moral est bon pour le duo qui a un bon coup à jouer pour la première édition de la course en double.
La nuit a été agitée, enfin depuis le départ au fait c'est agité.
On arrive à pas trop mal se placer, mais voilà, la mer est démontée. On a eu des rafales à plus de 30 nœuds et surtout une grosse mer agitée. Donc voilà, le bateau va bien, les bonhommes vont bien. Un peu fatigué quand même par la nuit parce qu'on n'a pas forcément très bien dormi et on a été un peu malade à tour de rôle. Moi j'ai attrapé froid au tout début avec une vague qui m'est tombée dessus à la sortie des Heads. Et puis au fait j'ai confondu la mer de corail de Calédonie et le lagon calédonien avec la mer de Tasmanie. Donc j'ai eu très vite très froid et j'ai eu du mal à remonter la pente. Donc même le coca ça passait pas, donc il y a tout qui ressortait. Au bout de 4-5 heures de bad, j'ai pu remonter la pente et ça y est, maintenant ça va un peu mieux. Michel ça va, il a pas mal barré. Ensuite on s'est rendu compte que le pilote barrait mieux que nous, donc on a joué entre le pilote et nous pour barrer. Voilà. Donc je vous envoie des photos vidéo dès que je peux vous en envoyer parce que la connexion est pas très bonne. Ça bouge beaucoup à bord, c'est un peu Bagdad, on n'a toujours pas rangé le SPI. Mais la motivation est là, les résultats pour le moment est là, donc c'est cool. Et puis ben, on lâchera rien, on ira jusqu'au bout.
Voilà pour cette vacation de Yann Rigal, qui va mieux, hein, on se rassure pour lui. Un autre équipage toujours dans la course, Pulpito MLS, skippé par David Tréguier. Il est dans le gros de la flotte à la 63e place, 7e en IRC 4, 4e de son classement de navire, c'est-à-dire les Sydney 38. Enfin, dans la même division, les Sydney 38, iCandy, skippé cette fois par Malo Le Seigneur, a opté ce matin pour une stratégie différente du reste de la flotte. Il avait décidé de partir plus au large avant de remettre le cap en direction de la côte. Il est actuellement en 76e position du classement général. À 13h cet après-midi, dans moins d'une heure maintenant, eh bien nous en serons précisément à 24 heures de course dans cette 80e édition de la Rolex Sydney Hobart.
Le sport sur la scène nationale à présent et les hommages qui sont nombreux après l'annonce de la disparition de Jean-Louis Gasset, une figure du football français.
Et notamment le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, qui a déclaré, je cite, « Le football français perd aujourd'hui l'un de ses grands serviteurs ». Jean-Louis Gasset était une figure emblématique du ballon rond, ancien milieu de terrain à Montpellier et son club de cœur, reconverti ensuite comme entraîneur et entraîneur adjoint. Son nom était aussi associé à celui de Laurent Blanc, le duo qui avait conquis d'abord le titre de champion de France en 2009 avec Bordeaux, année où les Girondins ont également remporté la Coupe de la Ligue et le Trophée des Champions. Ils sont restés ensemble à la tête de l'équipe de France, puis au PSG, avec cette fois 3 titres de champion de France, 3 Coupes de la Ligue, 2 Coupe de France, 3 trophées des champions supplémentaires. Jean-Louis Gasset aura aussi été entraîneur à plusieurs reprises de Montpellier, également de Saint-Étienne, de Caen, de l'Olympique de Marseille, sans oublier une mission en tant que sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Il s'est donc éteint à l'âge de 72 ans.
Encore du football, Mickaël, avec la suite de la Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, on joue désormais la deuxième journée des phases de groupe et les pharaons égyptiens sont les premiers qualifiés pour les 8e de finale après leur victoire sur l'Afrique du Sud 1-0. Dans le même groupe, le groupe B, l'Angola et le Zimbabwe se sont quittés sur un nul, un but partout. Et puis dans le groupe A, la Zambie et les Comores se sont quittés sur un score nul et vierge, 0-0. Le Maroc, pays hôte de la compétition, a été tenu en échec face au Mali. Score nul entre les deux formations, un but partout.
Merci Mickaël, il est midi et 23 minutes, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'info, ce sera à 13h. Bel après-midi sur Radio Rythme Bleu.